du réseau d'Outaouais contre la guerre et on est en présence de Sophie Arcat, l'épouse de Mohamed Arcat, qui est emprisonné sous un certificat de sécurité. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Sophie, on va profiter, comme on est en votre présence, pour avoir un petit update, une petite mise à jour de ce qui se passe avec le cas de Mohamed.
Il s'en passe beaucoup de choses. On était présentement en cour fédérale toute la semaine, c'est-à-dire que le deuxième certificat contre mon mari a déjà débuté. Les procédures contre mon mari ont commencé, c'est-à-dire que tout est en marche. Ça va à une vitesse incroyablement inquiétante. Les procédures secrètes continuent, c'est-à-dire qu'on a des avocats spéciaux depuis juillet, mais les avocats spéciaux, on s'est assis avec eux en juillet, puis on n'a plus jamais pu reparler avec eux une fois qu'ils ont vu la preuve secrète. Donc, depuis ce temps-là, nous, il n'y a pas de contact avec les avocats spéciaux, puis les avocats spéciaux n'ont pas de contact avec les avocats publics.
Pouvez-vous nous expliquer en quoi ça consiste, les avocats spéciaux?
Bien, premièrement, le certificat de sécurité, ce qui arrive, c'est que ça permet au gouvernement canadien de détenir quelqu'un sans charge, sans accès à la preuve. Donc, nous, on s'est battu pendant longtemps pour changer la loi. On a gagné en 2007 un challenge constitutionnel à la Cour suprême qui disait que les certificats de sécurité étaient anticonstitutionnels, donc de nous donner accès à la preuve, de donner plus de liberté, quoi que ce soit. Entre-temps, mon mari a été libéré en juin 2006 sous les conditions les plus difficiles dans l'histoire du Canada, beaucoup plus difficiles que celles de M. Charkaoui à Montréal. On a beaucoup plus de conditions à respecter. Et puis, là, maintenant, on a des avocats spéciaux. Donc, les avocats spéciaux, en autre mot, ils nous protègent en procédure secrète. C'est-à-dire qu'on a, si on a fait un choix difficile de laisser aller un de nos avocats publics qui a appliqué pour le poste d'avocat spécial. Et puis, lui a été choisi. C'est un processus très difficile. Il faut avoir un minimum d'années d'expérience pour être avocat spéciaux. Et puis, ces avocats-là, ils ont le droit de voir la preuve secrète et puis de la contre-interroger, de la questionner, de voir... peu importe ce qui touche à ça. Mais on a découvert il y a quelques semaines que pas tout le matériel a été relâché aux avocats spéciaux. Donc, le juge, en mi-septembre, a fait une décision de obliger le gouvernement et les services secrets de fournir entièrement la preuve ou n'importe quoi qui touche au dossier de mon mari aux avocats spéciaux. Le gouvernement a donné 6 mois. Au service secret pour mettre la preuve ensemble. Ça fait 6 ans presque que mon mari est sous l'effet d'un certificat de sécurité. Tu penserais que tout est déjà dans une boîte, tout est déjà prêt. 6 mois à préparer leur dossier. Donc, entre-temps, nous, on a demandé de mettre une attente au procès. On a dit on voudrait attendre que la preuve secrète soit disponible aux avocats. Puis, en même temps, il y a de la preuve qui devrait être rendue publique. Bon, ce qui ne touchera pas à la sécurité nationale, il y en a de ça qui va être rendu public. De cette preuve-là, on peut peut-être jouer un peu avec ça dans les processus publics. Donc, on a demandé au juge cette semaine, pouvez-vous mettre le procès en attente jusqu'à toute cette preuve-là soit disponible? Le juge a dit non, on va commencer. Et puis, en autre mot, on dealera peu à peu avec ce qui va rentrer. Donc, déjà, dans mes yeux à moi, il y a encore d'injustice parce qu'on commence un nouveau processus puis on sait que la preuve n'est pas complète, ni du niveau public, ni du niveau secret. Donc, en même temps, on a commencé à faire une variation des conditions parce que nous, on a les conditions les plus difficiles au Canada. Et puis, la liste, elle est très longue. Elle est listée dans ma brochure ici. Malheureusement, je ne l'ai pas en français, mais sur ce panel ici, là, ils sont pas mal listés en général. Mon mari porte un bracelet GPS. Il a besoin de 24 heures de supervision, 7 jours semaine. Donc, moi, quand je suis pas avec lui, c'est ma mère qui est avec lui ou quelqu'un de mon comité. On est seulement 3 personnes qui peuvent rester avec. Il ne peut jamais être seul à la maison, jamais seul dans la cour. Il peut seulement sortir 3 fois par semaine pour une durée de 4 heures. Chaque sortie doit être préapprouvée 48 heures à l'avance par les services frontaliers qu'on appelle CBSC. On ne peut pas aller nulle part d'autre que des locations qui ont été préapprouvées. On ne peut pas parler à des gens qui n'ont pas passé un background criminel avec les services frontaliers. Tous les gens avec qui on communique sur une base régulière qui est préapprouvée, ont passé à travers un dossier criminel. Les gens ne peuvent pas venir chez nous sans être approuvés. Ils ne peuvent pas emmener leur cellulaire, ils ne peuvent pas emmener leur BlackBerry. Mon ordinateur est sous clé. On a des caméras à l'intérieur de notre maison. Donc, moi, je surveille mon mari 24 heures. Il porte un GPS autour de la cheville en tout temps. Il est surveillé non-stop. On a des caméras, une dans l'entrée, une dans notre salon qui fait face à la porte. Notre courrier est ouvert. Nos téléphones sont écoutés. Les services frontaliers nous suivent durant nos sorties avec des balles anti-vest, avec des fusils. La semaine dernière, ils ont envoyé 2 voitures, 4 officiers pour nous suivre à une sortie à une mosquée. C'est vraiment, c'est inhumain. Moi, je peux même pas aller à une chambre de bain publique sans que mon mari soit accompagné. Donc, si moi, je veux aller à une chambre de bain publique, soit que mon mari reste avec quelqu'un d'autre qui peut l'accompagner, soit ma mère ou Bill, ou bien que je dois téléphoner les services frontaliers d'un téléphone public parce que j'ai pas droit à un cellulaire pour leur dire que je vais aller aux chambres de bain. Et vice-versa avec mon mari. Je suis allée au rendez-vous gynécologue l'autre jour. Mon mari a dû rentrer avec moi parce que je peux pas le laisser seul. Donc, c'est l'humiliation totale, constante. Vit des conditions inhumaines. Notre vie a été notre vie a été renversée le 10 décembre. Mon mari a été arrêté la Journée internationale des droits humains. A fait 43 mois de prison, sans charge, sans accès à la preuve. Et maintenant, ça fait 2 ans et demi qu'il est en prison. Moi, je suis devenue son « jailer ». Je ne connais pas le terme français. Je suis prisonnière dans ma propre maison. Caminando por la calle va. J'ai témoigné cette semaine sur 4 heures de témoignage sur les conditions que je vis. J'en ai pleuré pendant 2 heures. Puis je ne sais pas à qui je dois exprimer mes frustrations. Personne n'a l'air à comprendre. On m'a imposé ces conditions-là, mais les services frontaliers cette semaine m'ont décrit comme que j'étais une personne secte, pas respectueuse, que j'étais souvent frustrée.
Il y a de quoi être frustrée.
Imaginez-vous que je dois expliquer pourquoi je suis frustrée après avoir été imposée des conditions comme celles-là. Puis je comprends que les familles de Montréal sont super frustrées. Puis imaginez-vous des conditions encore plus intenses que celles de Montréal. Puis expliquer pourquoi je suis frustrée. J'ai le droit d'être frustrée pour n'importe quelle raison. Je dis, moi, que j'ai des conditions ou pas, ça fait 6 ans que je t'en maudis de toute façon, parce que ça fait 6 ans qu'on vit l'injustice sur les certificats de sécurité. Puis là, en plus de ça, après que mon mari est libéré, je suis maintenant devenue prisonnière de ma maison. Puis jailer, puis en plus, j'ai pas une paye. Moi, on me paye pas pour faire ce travail-là, mais on me surveille faire ma job. Je me fais suivre constamment durant les sorties. Donc, ça a été très difficile pour moi de me mordre la langue cette semaine, puis de dire, écoutez, regarde ce que mon gouvernement me fait, vous me trahissez, je suis canadienne, je suis citoyenne canadienne, j'ai toujours été une citoyenne exemplaire. Puis cette semaine, ça n'a pas été à propos du procès de mon mari, ça a été à propos de mon comportement envers les services frontaliers. Puis qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on peut faire confiance à Sophie puis la relation qu'elle a avec les services frontaliers? Ma réputation à moi, ma crédibilité a été remise en question cette semaine. Tout ce qu'on a parlé en cours cette semaine, bien, en tout cas la grande majorité, était de mon comportement et de mon attitude envers les services frontaliers.
Essayer de faire taire vos critiques.
Bien, pour que le juge, pour essayer de, bien, faut que le juge vraiment revise la situation pour alléger nos conditions. Il faut vraiment qu'il y ait une stabilité, il faut qu'il y ait eu du travail, il faut qu'on ait respecté les conditions qu'on a faites du début. Mais là, les services frontaliers vont tout faire pour remettre ma crédibilité en question, pour dire, écoute, alors on ne peut pas y faire confiance, on ne peut pas le laisser tout seul à la maison. Parce que là, une des conditions qu'on essaie de changer, c'est que mon mari puisse rester à la maison seul pour me donner un peu de liberté. Donc, je n'aurais pas besoin de le laisser avec quelqu'un d'autre. On devrait peut-être rapporter par téléphone. Je veux dire, au total, on a 23 conditions à respecter. En plus qu'on a énormément d'argent sur sa tête. Donc, ça aussi, nous autres, si on brise les conditions, non seulement on déçoit nos supporters, mais on déçoit beaucoup de monde, je veux dire. On ne fait pas juste ça pour nous autres, puis on a notre famille derrière nous. On a des centaines de personnes qui nous supportent. Il faut penser à ça tous les jours, nous. On a ce stress supplémentaire-là. En réalité, on aimerait mieux pas en avoir de conditions du tout, mais la réalité, c'est que ça, c'est le genre de liberté qu'on a au Canada. C'est que si tu es sous l'effet d'un certificat de sécurité, bien, des fois, on dit, bien, tu es chanceuse qu'il soit sorti. Donc... Tu sais, je veux dire, lui est sorti, on est content de l'avoir avec nous. On ne retournerait pas en arrière, mais en même temps, c'est toute la famille qui souffre. Le certificat de sécurité, ça l'affecte non seulement mon mari, ça l'affecte moi, ça l'affecte ma mère, ça l'affecte ma soeur, ça l'affecte mon neveu qui vient de naître, que je n'ai pas la chance de voir régulièrement, qui a dû se faire approuver, qui a 3 mois.
Il
faut lui donner une photo du bébé. Imagine-toi donc.
Sophie, on va te poser une question. Comme on travaille pour un média indépendant, on voulait savoir un peu comment tu analyses la couverture médiatique
de cet événement ici?
Oui. De tout le cas avec ton mari.
Bien, je peux dire que la raison pour laquelle il y a des médias qui couvrent nos événements, c'est en grande part à cause du travail qui sont faits par les supporters. Ça, il faut dire que régulièrement, c'est nous qui envoient des communiqués pour les avertir des dates de cours, des choses comme ça, parce que je pense que la moitié des cas ne seraient pas couverts si ça ne serait pas fait sur une base régulière. Moi, je cours beaucoup après les grosses histoires. Je cours après les médias, les magazines pour des grosses pages, les pages couverture pour avoir des histoires dans les magazines. Que présentement, le Châtelain en a fait un de 9 pages. Celui de Sophie Trudeau, j'étais juste après elle, 9 pages de mon histoire. Des choses comme ça. Moi, j'essaie de travailler plutôt sur le côté positif, faire des focus pieces qui vont être positifs et non pas négatifs. Des statistiques, avoir des statistiques. Là, on va avoir une statistique qui va sortir lundi dans les journaux, dans le Globe and Mail, sur mon mari. Vous vérifierez ça. Sur les coûts de sa libération. Okay. Ça va choquer les gens, je pense. Fait que ça devrait sortir lundi dans le Globe and Mail. Quand on va en cours, c'est sûr que c'est pas toujours à notre avantage, mais moi, je me dis, mauvaise presse ou pas de presse, il en faut. Puis c'est comme ça aussi, comme moi, qu'on se fait reconnaître dans la rue régulièrement. Mon mari, moi, se fait sauter dessus régulièrement d'une façon positive. Le monde l'adore, oui, oui. Parce que moi, j'ai changé beaucoup de look depuis... j'ai comme perdu 80 livres depuis le début, fait que le monde a moins tendance à me reconnaître. Je me suis fait pousser les cheveux, fait que le monde me reconnaisse moins. Mais quand on est ensemble, on est dur pour reconnaître. Fait que ce côté-là, moi, je veux donner comme une image humaine à mon mari. Puis mon mari, lui, il est très bon avec ça. Puis mon mari, oui, bien, il aimerait mieux avoir une vie privée. Puis il aimerait mieux, tu sais, pas faire ça. Mais on n'a pas le choix. Nous, on veut vraiment éclairer son nom à la fin. Puis je pense que si on n'est pas dans les médias, on n'aura jamais le support de la communauté puis des Canadiens. T'sais, c'est une façon de le faire, mais c'est pas toujours facile. Mais il faut dire qu'au début, les headlines étaient dégueulasses. Puis ça a progressé. Aussi, on utilisait beaucoup le mot « suspect » au début. Ah, ça, c'est devenu « alleged ». Après, ça, c'est devenu « présumé ». Présumé, « alleged ». Comme cette semaine, je me suis plaint. Il utilisait le mot « suspected ». Je me suis plaint à quelques médias. J'ai dit « écoutez, si vous retournez en arrière, ils ne sont pas suspects. Ils n'ont pas de charge. Mm-hmm. Accused, oui. Ils ne sont pas accused. Ils n'ont pas de charge. Donc, vous devez utiliser le mot « présumé » ou « alleged ». Vous devez utiliser un autre langage. C'est important, ça. C'est important parce que les gens qui lisent les articles peuvent lire autrement. Donc, à ce niveau-là, on a fait beaucoup de travail. Mais moi, il faut dire que j'ai une grosse part là-dedans du travail parce que je cours beaucoup après les médias. Moi, je cours énormément après les médias.
Et il ne se fait pas tout seul, ce travail-là.
Non.
Les moi, j'ai étudié. Les c'est ça dans l'ombre. Si oui, c'était pas tout oui, le travail de vous,
oui.
Des supporters.
Moi, je rappelle régulièrement les médias. Je les appelle souvent régulièrement. Voulez-vous faire une histoire? N'oubliez pas, on est en cours. Si, puis ça. Je comprends qu'il y a beaucoup d'autres choses qui se passent en même temps. Quand c'est les élections, ça veut dire qu'on n'a presque pas de couverture médiatique. Donc, il faut faire quelque chose qui attire l'attention. C'est pas évident. Puis aussi, c'est pas toujours en notre faveur. Mais non, je travaille beaucoup à ce côté-là. Puis aussi, j'ai une bonne relation avec les médias. Moi, j'ai étudié en médias. Donc, c'était à mon avantage, mettons. Moi, quand quelqu'un me donne un mauvais morceau, tu viens pas me revoir deux fois pour en faire un parce que je suis un peu comme ça, moi. Tu sais, j'ai comme cette relation-là avec les médias. Si t'es méchante avec moi, ben c'est bien tout bad, mais je prendrai pas de mon temps pour te donner une entrevue. Là, tu sais, je suis comme ça. Donc, je garde beaucoup des relations avec ceux que avec qui je fais confiance ou qui sont plutôt exacts dans leur...
La transmission d'informations
ouais,
après.
Ça, ouais.
Sophie, pour terminer, est-ce que tu veux lancer un message? Est-ce que tu aurais un dernier message à dire aux auditeurs, auditrices?
Bien, pour ceux qui écoutent l'émission, je sais que c'est pas juste la cause des certificats de sécurité, mais il faut continuer à pousser pour abolir les certificats de sécurité pour que les gens aient des procès justes et équitables. Il faut absolument que les 5 hommes détenus aient des procès justes et équitables. Il faut que ces hommes-là, que leurs conditions soient abolies parce qu'ils sont parmi les plus difficiles au Canada. Il ne faut pas oublier que ces hommes-là n'ont jamais été chargés, n'ont jamais vu les preuves contre eux. T'sais, je dis souvent aux gens, vous pouvez penser ce que vous voulez de ces hommes-là. Mais mettez-vous dans leurs souliers. Si vous étiez en prison ou si vous étiez à la maison avec ces conditions-là, est-ce que vous accepteriez le processus? Puis la plupart des gens vont dire non. Donc, il faut se mettre dans leurs souliers. Ce n'est pas parce qu'ils sont des réfugiés, des immigrants qui sont différents. Ce sont des êtres humains. Ils sont venus au Canada, ils ont droit à leurs droits. Puis une vie humaine, ça n'a pas de prix. C'est ça qui est important. Puis moi, en général, peu importe la cause que vous supportez, vous voyez qu'aujourd'hui, il y en a plusieurs. Il faut supporter une cause. Il faut que tout le monde se batte pour la justice sociale. C'est important. Moi, ceux qui ne le font pas, j'utilise le mot « loser », puis je n'ai pas peur de le dire. Avant même de me battre pour mon mari, je ne faisais aucune justice sociale. Je n'allais pas à aucune manifestation. C'est dans mon sang maintenant. J'adore ça. Et puis, c'est important qu'on le fasse parce que en allant à ces choses-là, on se rend compte que de l'injustice, ça vient sous toutes les formes. Et puis, il y a beaucoup de gens qui souffrent, puis il y en a qui ont besoin de l'aide, puis il y en a qui n'ont pas la force de s'être public comme moi. Il faut supporter. Peu importe que vous supportez une cause comme le cancer, ou peu importe, il faut tout le monde se tenir la main, il faut tout le monde se battre pour quelque chose, c'est important. Sinon, les causes avancent.